Que le Seigneur soit béni. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de connaître la volonté de Dieu. Qu'il n'y a rien de plus beau sur la terre. Nous allons donc poursuivre ce sujet sur le repos. Nous allons venir au texte de base, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Je voudrais que nous reprenions ce texte, cette invitation de Jésus, qui est extraordinaire et méprisée par tant de pécheurs et par beaucoup de chrétiens. Matthieu, chapitre 11, verset 28. N'oubliez pas que quelque temps après, tous ont abandonné Jésus, tous. Et pourtant, Jésus le savait et il a dit ceci, Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous, personne n'est oublié. » Croyez bien que ce soir, personne n'est oublié, que la prédication, elle est pour tous. Dans ce groupe, il devait y avoir toutes sortes de gens, des gens bien et des gens pas bien du tout. Et pourtant, Jésus a dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous allons lire notre texte dans la deuxième épître de Pierre, un texte qui nous invite à participer à la nature divine. Je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est parce qu'un de vos désirs, c'est d'être participant, d'être utile à l'œuvre de Dieu. C'est bien cela? Je crois que vraiment, vraiment, ce n'est pas possible, vu les difficultés que nous avons pour se garer, qu'on vienne pour le seul plaisir de venir. Je crois qu'il y a un désir de participer à la nature divine. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, du verset 3 au verset 12, il y a tout un enseignement qui consiste à voir cette apparente opposition entre le repos et les efforts. On en reparlera. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Voilà pourquoi je prendrai soin de rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Je pense que vous avez envie que l'entrée dans le royaume éternel de votre Sauveur et votre Seigneur Jésus-Christ vous soit largement accordée. C'est votre désir, l'entrée dans le royaume éternel. C'est pour bientôt. Jésus a donc dit « Venez à moi ». Dans la version Darby, il est écrit « Apprenez de moi ». Peut-être quelqu'un a la version Darby sur lui. « Apprenez de moi ».« Recevez de moi ».« Prenez mon joug ». Il y a des verbes qui indiquent qu'il y a des efforts à faire. Est-ce que vous aimez faire des efforts? Est-ce que vous aimez faire des efforts? Oui, parce qu'il y a effort et effort. Les gens, beaucoup de gens, bien sûr, veulent la bénédiction, veulent recevoir la bénédiction, mais ne veulent pas apprendre. Pour apprendre, c'est évident, il faut faire des efforts. Voyez, le repos que Jésus propose, il ne vient pas comme ça, à part le repos de l'âme, il faut te dire, Seigneur, merci pour ton sang précieux, par une vraie repentance et une vraie conversion. C'est un repos qui est rempli d'espérance, bien sûr, mais après, il y a le repos ici-bas, par rapport à ce combat qu'on doit mener, parce qu'il y a un combat à mener, et le Seigneur est catégorique, apprenez de moi. Apprenez de moi, recevez de moi, prenez mon joug sur vous. Ces verbes, ce sont des verbes actifs, nous montrent qu'il y a des efforts. Car pour vivre dans le repos de Dieu, on ne peut pas vivre dans le repos si on ne fait pas ces efforts qui nous permettent de participer à la nature divine. Car c'est pas le repos de Dieu, c'est pas pour qu'on vive comme des paresseux. Le repos de Dieu, c'est pour que l'on vive dans la grâce, de faire les choses dans la paix, de combattre le bon combat. Voilà, c'est pour ça qu'on a des efforts. Mais il y a des gens qui sont partisans du moindre effort. Il y a des gens qui ne veulent pas faire d'efforts. Il y a des gens qui mentent pour toucher la cote REP. Vous connaissez ces affaires. C'est un truc de fou. Dans notre pays, on a tellement fait du social, je dis ça, c'est sérieux, qu'on a amené les gens à être paresseux. Et dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de chrétiens deviennent paresseux. Jésus en parle dans les paraboles, et c'est là qu'il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, à cause des chrétiens qui seront devenus paresseux, parce qu'ils n'auront pas été soucieux d'apprendre, de recevoir, de prendre vraiment, comme Jésus dit, mais prenez mon joug sur vous. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ne servent à rien, ça c'est vrai. Il faut bien comprendre les efforts. Il y a des efforts, on voit dans la Bible, efforcez-vous. Je crois que 7 fois au moins dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de faire des efforts. Il y a des efforts qui ne servent à rien. Se confier dans la chair, se confier dans ses propres forces, se confier dans son intelligence, se faire confiance à ses efforts, voilà, c'est une aberration, c'est stérile. Alors que vous pouvez faire des efforts pour faire confiance en Dieu. Ça, c'est vraiment autre chose. Vous connaissez tous ce texte. Pour les personnes nouvelles, on va le lire. Dans Jérémie, au chapitre 17, il y a ce texte extraordinaire où, justement, Jérémie indique qu'il y a deux façons de se confier, en fin de compte. Il y a plusieurs façons de faire des efforts. Il y a plusieurs façons d'agir. Il y a une façon qui est charnelle, il y a une façon qui est spirituelle. On va commencer par le charnel. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ça indique que des efforts sont faits, mais ce sont des efforts qui n'amènent pas la bénédiction. Puisqu'il est dit, Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel. » Je vous ferai remarquer que cette expression revient souvent. C'est pour que nous comprenions tous bien que c'est Dieu qui le dit. « Ainsi parle l'Éternel. » On sait bien que si c'est dans la Bible, c'est que Dieu qui parle. Vous êtes d'accord? Mais si c'est écrit, si souvent, ainsi parle l'Éternel, c'est pour que nous comprenions bien que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas une dénomination, ça vient vraiment de la bouche de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui, il y a des efforts, mais vous avez vu le résultat. Qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Vous en rendez compte? Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Oui, il y a de chaque côté des efforts qu'ils ont faits. Mais vous avez vu, l'orientation n'est pas du tout la même. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Si vous avez la darbie, et dont l'Éternel est la confiance, ça fait un peu pléonasme, mais c'est très intéressant. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert, dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Quelle bénédiction! Vous avez envie de connaître cette bénédiction? Certains aident dans cette bénédiction. Alors, notre vie, puisque en fin de compte, nous sommes intéressés par notre vie, oui ou non? Est-ce que vous êtes intéressés par votre vie? Ben oui. De quoi est faite votre vie? Parce que pour parler du repos, il faut comprendre un peu la vie. Il faut comprendre le caractère de Dieu. Je m'y applique depuis plus de 2 mois bientôt à parler du caractère de Dieu, parce que c'est important de comprendre le caractère de Dieu, mais aussi il faut comprendre un peu de quoi notre vie est faite. Votre vie est faite de quoi? Notre vie est faite... Est-ce que votre vie est faite de haut et de bas? Bon. Est-ce que votre vie est faite de victoire? Est-ce que votre vie est faite de défaite? Bon, on est tous pareils, je crois. Est-ce qu'il y a des luttes? Il y a des combats? Est-ce qu'il y a des combats? Est-ce qu'il y a des moments de paix? Oui, etc. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'en même temps, il y a des expériences? Oui, alors on peut multiplier, moi j'ai marqué. Est-ce qu'il y a des relations? Est-ce qu'il y a des relations paisibles avec les gens? Est-ce qu'il y a des relations difficiles? Est-ce que vous avez des relations parfois difficiles avec les gens? Bon, ça va. Est-ce qu'il peut y avoir des périodes de bénédiction, mais est-ce qu'il peut y avoir des périodes de découragement? Des déceptions, des rêves brisés, des chutes, des relèvements, j'ai mis etc. Parce que j'aurais pu remplir la liste, c'est infini. Bon. Nous avons des chutes. À qui attribuons-nous nos chutes? Comment? À nous-mêmes. Oui. Est-ce que parfois on ne prend pas le risque d'attribuer nos chutes, nos échecs aux autres? Est-ce que ça peut arriver qu'on dit oui, mais c'est pas ma faute, si j'en suis là, c'est à cause de lui. Voilà, si je suis dans l'échec. Est-ce que ça peut arriver, bien sûr, monsieur Puet, c'est tout à votre honneur, mais est-ce que ça peut arriver qu'on attribue nos échecs aux autres? Oui, c'est pour vous dire que la vie est compliquée. Nos succès, tiens donc, est-ce que si nous avons du succès, est-ce que bien sûr, si j'ai du succès, c'est clair, c'est que je le mérite. Donc, est-ce que c'est grâce à nos mérites que nous avons du succès, ou est-ce que c'est juste un effet de la grâce de Dieu? Vous voyez, ce sont des sujets qui nous... Et pourquoi je pose ces questions? Je pose ces questions parce qu'en vérité, c'est notre vie, que nous le voulions ou non. C'est notre vie. Alors, en réfléchissant à ce sujet, parce que quand même, vous vous rendez compte, Jésus dit, recevez de moi, apprenez de moi, et vous trouverez le repos. Car qu'on le veuille ou non, on est créé pour le repos. Dieu veut que par sa grâce, nous connaissions le repos. Vous comprenez bien que l'ennemi n'en a rien à faire, qu'on soit chrétien ou pas. En vérité, l'ennemi, il sait, parce qu'il y a des chrétiens qui vivent exactement comme des païens, je ne vous apprends rien. Il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches, qui sont exactement comme les païens. Il y a des gens qui disent parfois, oh, le diable ne veut pas qu'on aille à l'église. Le diable, il s'en fiche qu'on aille à l'église. Le diable, il s'en fiche qu'on lise la Bible. Ce que le diable déteste, c'est de véritables disciples qui sont des témoins vivants et qui amènent la bénédiction de Dieu. Alors, c'est un sujet, moi, qui me préoccupe énormément, parce que je vous l'ai déjà dit, beaucoup de chrétiens sont dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, dans le découragement, et ce n'est pas, je peux vous le dire, la volonté de Dieu. Nous avons besoin de comprendre, de recevoir. Alors, hier soir, je lisais le psaume premier. J'étais dans ma chambre, j'étais de bonne heure, je me couchais, et j'avais envie de lire un psaume. Parce que je ne sais pas vous, mais les psaumes, qu'est-ce que vous pensez des psaumes? Qu'est-ce que vous pensez des psaumes? Vous allez me dire, monsieur Gault, toute l'écriture est inspirée. Vous êtes d'accord? Toute l'écriture est inspirée. Vous êtes d'accord avec moi? Toute l'écriture est inspirée. Mais les psaumes, de qui parlent-ils, les psaumes? Mais voilà! Les problèmes que nous traversons. Quand vous lisez les psaumes, vous dites, mais qu'est-ce que... Vous voyez des hommes qui déversent leur cœur devant Dieu par rapport à tous les problèmes qu'ils traversent. En même temps, on voit le caractère de Dieu, ça c'est évident, parce que chaque fois qu'il y a un problème, il y a de l'intercession qui nous amène à voir le caractère de Dieu. Mais en vérité, les psalmistes, que vous le vouliez ou non, ils expriment les problèmes de la vie. Alors il y a beaucoup de louanges parce que les problèmes doivent nous amener normalement à faire des expériences avec Dieu. Est-ce que c'est ça? Mais ces problèmes sont là, c'est la vérité, nos échecs, nos luttes, nos doutes, nos chagrins, nos misères. Quand vous lisez les psaumes, vous ne voyez que ça. Donc, vous voyez que de tout temps, il y a 2000 ans, 2500 ans, puisque c'est à peu près cette date-là, les hommes rencontraient les mêmes difficultés. Oui ou non? Quand vous lisez les psaumes, on voit, franchement, c'était à peu près les mêmes difficultés. Et les prières qu'ils ont faites nous ont souvent aidés. Est-ce que vous n'avez pas déjà prié avec un psaume? Vous étiez fatigué, vous n'aviez même pas de mots pour prier tellement vous étiez fatigué, et vous avez pris un psaume pour prier. Est-ce que vous l'avez déjà fait ça? Moi, je sais que je crois que quand on est épuisé, ça peut nous arriver. Oui ou non? Est-ce qu'on a le droit? Mais je crois que oui, on peut le faire. Donc, les psaumes sont là pour nous aider à comprendre certaines choses, pour nous aider à comprendre ce qu'est le bonheur. D'ailleurs, on va lire le psaume premier. On va commencer par le début. Alors, vous inquiétez pas, on va pas ce soir voir les 150 psaumes. Ne vous inquiétez pas. Là, je pense qu'il y aurait pas beaucoup de repos. Psaume premier. On va lire le psaume premier. Vous êtes d'accord? Ah bon, heureusement que les sagiaires sont d'accord. Psaume premier, lisons-le, n'oublions pas l'introduction qui est un moteur pour comprendre ce qu'est le repos. Apprenez de moi et vous recevrez le repos. Est-ce que je peux apprendre certaines choses par le psaume premier? Est-ce que je dois recevoir certaines choses? Vous voulez que Dieu vous bénisse? D'accord. Vous voulez tous que Dieu vous bénisse? De toute façon, il le fera. Vous êtes ses enfants, écoutez-moi, Dieu le fera. De la même manière que méchant comme on est capable de bénir nos propres enfants. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est qui l'a dit? Bon, c'est Jésus qui l'a dit. Alors, mais il faut apprendre. Je suis peiné, vraiment peiné, de voir tant et tant de chrétiens qui ne sont pas du tout intéressés. Ils veulent la bénédiction, mais ils n'ont pas le repos. Parce que ce n'est pas parce qu'on est béni qu'on a le repos. On est dans le repos parce qu'on prend le joug du Seigneur. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos. Alors apprenons, lisons ce psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Si vous avez regardé le sermon sur la montagne, il commence par le même mot et il finit par le même mot. Heureux est le début du psaume et le dernier mot c'est la ruine. Si vous lisez le psaume, le sermon sur la montagne, Jésus commence de la même manière, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et ça finit que celui sur qui a fondé sa maison sur le sable, sa ruine a été grande. Heureux, heureux dans la version Darby, je lisais ce matin, bienheureux, joyeux. La racine de ce mot signifie aller de l'avant, parce que je crois qu'un homme qui est heureux, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Est-ce que vous avez envie d'aller de l'avant, d'apprendre, de continuer à servir? Est-ce que c'est important pour vous? Je ne sais pas l'âge que vous avez, mais quel que soit votre âge, est-ce que dans votre cœur, il y a cette grâce de dire « Oh oui, je veux aller de l'avant. J'ai eu des échecs, je me suis arrêté, je me suis fait avoir, le diable m'a arrêté, comme se blesser sur le bord de la route. Mais en vérité, je n'ai qu'un désir, c'est d'aller de l'avant. » Et je lisais dans un dictionnaire que justement, le mot « heureux » signifie, le verbe, ça signifie « aller de l'avant ». Est-ce que vous voulez aller de l'avant? Est-ce que c'est important pour vous dire « Seigneur, ma course n'est pas terminée, même si tu me reprends dans 6 mois, ça ne fait rien, Seigneur, je veux aller de l'avant. » Je crois qu'un homme heureux est quelqu'un qui avance, pas quelqu'un qui freine des deux pieds, « J'en ai marre, j'arrête, c'est fini, je rends le tablier. » Non, non, non. Je crois qu'un homme heureux est quelqu'un qui a envie de continuer d'aller de l'avant. Une personne heureuse, c'est quelqu'un qui a les yeux fixés sur le Seigneur. Alors vous remarquerez, parce que c'est comme ça qu'on comprend le repos, que ce psaume commence en disant ce que l'homme heureux ne fait pas. Dans ce psaume, on voit ce que l'homme doit faire, mais on voit aussi ce que l'homme ne fait pas. C'est important d'apprendre dans la vie. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Que dit le verset premier? On voit le verset premier comme une mise en garde. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que les gens sont malheureux lorsqu'ils suivent le conseil des méchants. Il y a des gens qui veulent le repos. Oh Seigneur, donne-moi le repos. Mais ce texte nous prouve, quand vous commencez le livre des psaumes, qui, je le répète, est un psaume, bien sûr, qui est la parole inspirée, mais ça parle beaucoup de nos souffrances, les psaumes. C'est pour ça que les gens aiment les psaumes. Pourquoi les gens aiment-ils les psaumes plus qu'autre chose? D'ailleurs, il y a des gens qui lisent que les psaumes, ce qui est une erreur d'abord. Moi, j'ai connu une personne qui me disait, moi, je ne lis que les psaumes. Est-ce que c'est bien? Et non, il faut tout lire. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est une mentalité, les méchants. Puis les méchants, le mot méchant, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le mot méchant? Est-ce que les gens comprennent ce que veut dire le mot méchant? C'est quoi un méchant? C'est quoi un méchant? C'est quoi quelqu'un de méchant? C'est quoi pour vous quelqu'un de méchant? Voilà, parce que rien que ça, déjà, je suis sûr qu'on n'est pas tous d'accord par rapport à la définition du méchant. Mais, on va y revenir, n'importe qui peut se faire piéger par cette mentalité. Parce qu'il y a autour de nous beaucoup de gens qui sont méchants, oui ou non? Est-ce qu'on peut travailler avec des gens qui sont méchants? Est-ce qu'on peut? Oui, on peut travailler. Est-ce qu'autour de nous, il peut y avoir des gens méchants, des voisins méchants? Est-ce que ça peut arriver? Des méchants? Est-ce qu'il peut y avoir des méchants dans l'église? Mais oui, attendez, on va y... Bien sûr, parce qu'un méchant dans la Bible, c'est quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. Il croit en Dieu, mais il ne veut pas de Dieu. Quand il dit, mais que le méchant retourne à l'Éternel. Le méchant dans la Bible, ce n'est pas le pécheur, on va le voir. Parce que là, il fait la différence entre le méchant et le pécheur. Le méchant, c'est quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. Il croit en Dieu, mais il ne veut pas de Dieu. Et nous pouvons être influencés par des gens qui croient en Dieu et qui en même temps ne veulent pas de Dieu. Ils s'appuient sur leur propre force, ils s'appuient sur leur sagesse. Ils vous feront même croire qu'on n'a pas besoin d'église. Vous voyez, mais non, on n'a pas besoin d'église pour être chrétien. Est-ce que c'est vrai? C'est une vraie question. Est-ce qu'on a besoin de l'église? Moi, je crois que Dieu institue l'église. La preuve, c'est qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin d'accueillir. Dimanche matin, il y avait 7 ou 8 nouveaux. Est-ce que c'est bien de les accueillir? Est-ce que c'est bien de les entourer? Peut-être qu'il y en avait l'après-midi, je suppose. Est-ce que c'est bien d'entourer les nouveaux? Dieu a institué l'église. Jésus est mort sur la croix pour instituer l'église. On a besoin d'une église. Et voyez, le conseil des méchants, c'est très, très, très judicieux, c'est très subtil. Mais nous devons savoir ce que la Bible dit. Pourquoi tant de chrétiens ne sont pas rentrés dans le repos? Eh bien, parce qu'ils ont été influencés par le conseil des méchants. Ça commence comme ça. Et vous devez faire attention à ce que vous entendez. Normalement, un chrétien qui connaît bien la Bible ne doit pas se faire piéger. C'est vrai que le mot méchant, aujourd'hui, dites dans la rue, quelqu'un est méchant, ils ne sauront pas trop, c'est quelqu'un qui fait de la méchanceté. Vous voyez, les gens ils vont dire comme ça. Mais je pense que même si nous sommes attachés à Dieu, nous pouvons nous faire influencer par des gens méchants. Moi, quand je pense aux méchants, je caricature, mais je pense souvent aux journalistes. C'est impressionnant comment, par leur cynisme, ils contaminent les gens. Et ils essaient de nous imposer leur façon de penser, plus que même les gens du gouvernement. C'est eux qui décident ce que l'on doit penser de ce qui se passe, par exemple, au Mali. Écoutez bien ce que disent les ministres, écoutez bien ce que disent les journalistes. Et à la fin de la journée, qui c'est qui vous a le plus influencé? C'est impressionnant comment c'est, souvent, presque tous, je le dis franchement, parce que je ne pense pas que la télé est dirigée par Dieu, vous voyez. Mais je pense que ces hommes cyniques, pas tous, mais je parle, c'est pour ça que j'ai dit que je caricaturais, mais faites attention aux conseils des méchants. Si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons être influencés au travail. Moi, j'ai vu des chrétiens devenir racistes. Parce qu'au travail, ils étaient entourés que de gens qui ne faisaient que critiquer les étrangers. Et j'ai vu, moi, des gens qui étaient, des chrétiens qui devenaient racistes. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien soit raciste? Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris garde au conseil de Dieu. Mais il faut faire attention, croyez-moi. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas bien disposés. Et si nous, on a envie de faire le bien, je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire le bien. Il y a des gens qui ont envie de vous décourager. L'homme heureux, il n'écoute pas le conseil des méchants. Il ne ralentit pas sa course. Et parce qu'il est dit, il ne marche pas selon les conseils des méchants. Je crois qu'il faut accélérer sa course et ne pas écouter le conseil des méchants. Deuxièmement, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous avez vu les verbes marcher, s'arrêter et s'asseoir. Le méchant, il faut pas marcher avec lui. Mais le pécheur, bon, c'est d'une manière générale. Parce que, est-ce qu'on est tous des pécheurs? On est tous des pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? Mais après, il y a le pécheur qui a décidé de rester pécheur et qui a décidé d'exclure Dieu de sa vie. Parce que péché, ça signifie manquer le but, vous le savez. Péché, c'est ça, c'est exactement la signification en grec du mot manquer le but. Les pécheurs, est-ce qu'ils poursuivent de bons buts? Bien sûr que non, puisqu'ils ont manqué le but. Ils ont pris une mauvaise direction. Et lorsqu'un chrétien commence à s'asseoir, mais à s'arrêter, tiens, peut-être que ce qu'il dit est important. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Parce que s'arrêter sur la voie des pécheurs, c'est obligé, ça nous éloignera de Dieu, puisqu'ils sont sur une voie qui est contraire à celle de Dieu. Puisque le péché, ça veut dire quelqu'un qui a manqué le but. Donc quelqu'un qui commence à s'arrêter avec des pécheurs est quelqu'un qui commence à s'éloigner de Dieu. Si vous vous plaisez avec les pécheurs, de toute façon, c'est que vos pensées sont en accord avec eux. Oui ou non? Alors, est-ce qu'il faut aimer les pécheurs? Bien sûr, mais il ne faut pas se plaire avec eux. si on se plaît avec les pécheurs, si on est d'accord avec leur façon de faire, leur façon de voir, leur but, si on est d'accord avec leur façon d'agir, eh bien, petit à petit, ils nous éloigneront du Seigneur. On se demande pourquoi tant et tant de chrétiens ont rétrogradé. Vous ne vous posez pas la question? Vous n'en avez pas été malheureux de voir tant et tant de chrétiens rétrogradés? Eh bien, parce que petit à petit, ils se sont arrêtés sur la voie des pécheurs et petit à petit, bien sûr, ils se sont éloignés de Dieu. La troisième étape va beaucoup plus loin, puisqu'il est dit, là, ce n'est plus question de marcher et de s'arrêter, c'est une question de s'asseoir. S'asseoir, quand on s'assoit avec quelqu'un, c'est qu'on est bien avec quelqu'un. Oui ou non? Quand on s'assoit, c'est qu'on prend le temps, il y a quelque chose. Et ce mot, bien sûr, nous parle de ceux qui se moquent de Dieu. Je ne parle pas, il peut y avoir de l'humour. Est-ce que vous aimez l'humour? Oui, ça n'a rien à voir avec la moquerie. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la moquerie? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi y a-t-il des moqueurs? Qu'est-ce que c'est la moquerie? Qu'est-ce que c'est? Parce que, quand même, Dieu nous met en garde. Rappelez-vous l'introduction. Recevez mes instructions. Et quelqu'un qui veut le repos doit absolument ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il y a une chrétienne qui me demandait, il y a quelques années, elle me dit, Monsieur Gault, mon mari, il écoute, vous en ferez ce que vous voulez, c'est un témoignage. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mon mari, il écoute Rire et Chansons. C'est une station radio où il n'y a que des blagues. Et justement, ce jour-là, j'avais écouté pendant 5 minutes cette radio. Et au bout de 5 minutes, j'ai dit, bon, c'est minable. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté. Et cette sœur me dit, mon mari, chrétien, qui était chrétien à l'époque, il me dit, m'impose cette radio, je ne le supporte plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je dis, écoutez, moi, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai écouté pour voir ce qu'était cette station. Et je peux vous dire que je ne l'ai pas supportée. Eh bien, voyez, cet homme a rétrogradé. Et je lui avais dit à cette sœur, si votre mari, il aime ce genre de station radio, je peux vous dire qu'il rétrogradera. Pourquoi? C'est pas une révélation. C'est de la logique. Ça correspond à ce qu'on est en train de voir. Si on se plaît en compagnie des moqueurs, si on s'assoit avec eux, ne nous attendons pas à nous approcher de Dieu. Ne nous attendons pas à avoir le repos. Moi, je suis pour rire, parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. C'est pas interdit de rire, c'est pas interdit de pleurer. Mais vous comprenez bien que quand ça commence à tourner à la moquerie, ça ne peut pas plaire à Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est la moquerie, sinon de l'orgueil? Ça nous place au-dessus de Dieu. Il y aura des moqueurs qui diront, mais non, Dieu ne reviendra pas. Qu'est-ce que c'est cette moquerie? C'est se placer au-dessus de Dieu. Oui ou non? Qu'on le veuille ou non, les orgueilleux, ce sont des gens qui se placent, les moqueurs, ce sont des gens qui se placent au-dessus de Dieu. Parce qu'on n'a pas besoin des voix de Dieu, on n'a pas besoin des conseils du Seigneur. Moi, je suis heureux qu'on ait chanté « Merci pour ta parole ». On a besoin de la parole de Dieu. Moi, j'ai entendu un chrétien dire « Oh, mais la Bible, c'est tellement vieux ce livre. Vous croyez qu'il n'y a pas des bouquins plus modernes pour nous aider dans notre vie de tous les jours ?» Ben voilà, c'est se mettre au-dessus de Dieu. Qu'un chrétien dise, j'ai plus besoin de la Bible, c'est un trop vieux bouquin. Quand même, moi je crois qu'on a besoin de la parole de Dieu, que rien ne peut remplacer la parole du Seigneur. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé en compagnie de moqueurs? Vous languissiez pas de rentrer à la maison? Franchement, ça vous est jamais arrivé? Parce que je ne parle pas du rire, j'espère que vous me comprenez tous bien. Je pense que c'est bien d'être joyeux. Est-ce que c'est bien d'aimer joyeux? Oui, d'aimer la joie, c'est normal. Mais si vous vous plaisez en compagnie des moqueurs, croyez-moi, ils vous trouveront vite une chaise. Croyez-moi. Croyez-moi que le diable fera tout. Et je crois qu'un chrétien qui veut le repos, qui veut connaître le repos, évitera ces trois étapes. Voyez, on commence les psaumes qui nous indiquent notre souffrance, notre misère, mais en même temps, il y a plein de solutions. Dieu commence le livre des psaumes, je le répète, qui nous parle que de nos douleurs et de notre souffrance, avec des conseils extraordinaires. Parce que toutes ces choses sont vraiment inutiles. Ces choses-là ne peuvent pas nous amener au bonheur. Ces choses-là ne peuvent que nous amener à la tristesse, au cynisme. Je cherchais ce matin dans les dictionnaires, mais l'opposition du bonheur, c'est pas que la tristesse, c'est aussi le cynisme. Parce qu'il y a des gens par leur cynisme qui font du mal. Et nous devons éviter ces gens-là. Le verset 2 et le verset 3 nous donnent la solution. Vous avez vu, il commence par ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après, au verset 2, au verset 3, il y a la solution. On l'a lu, on la relit quand même. Qu'est-ce que nous offre le Seigneur? Il y a ce que le monde nous offre, bon, ce n'est pas terrible. Et il y a ce que Dieu nous offre. Mais qui trouve son plaisir, il faut que ce soit un plaisir, il ne faut pas que ce soit une corvée. Ah, moi je lis ma Bible, vous savez, je la lis parce qu'il faut la lire. On nous a dit qu'il fallait la lire. Bon, je ne sais pas si c'est le plaisir ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous offre. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Je pense que si vous êtes là ce soir, ça ne peut pas en être autrement, c'est parce que vous trouvez votre plaisir dans la loi de Dieu. Votre présence ici, c'est la preuve que vous trouvez votre plaisir dans la loi de Dieu. Comme une boussole qui indique toujours le nord, voilà, vous savez que la parole de Dieu vous indique toujours le bon chemin. Est-ce que l'image est valable? Moi, je le pense vraiment. La joie pour la loi, pour les juifs, à l'époque où ça a été écrit, c'était les 5 premiers livres de la Bible. Mais pour nous, la loi de Dieu, c'est toute la révélation, toute la parole de Dieu. Et la source de notre joie, ça doit être la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la parole de Dieu vous procure toujours du bonheur? Bien sûr, la parole de Dieu qui procure du bonheur, peut-être que pour quelqu'un qui découvre l'évangile, c'est un peu abstrait. Mais la parole de Dieu, c'est comme le nom du Seigneur. La parole de Dieu, nous allons retrouver le pardon si nous en avons besoin. Est-ce que vous trouvez pas qu'on a besoin souvent du pardon de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu ne vous donne pas son pardon chaque fois? Mais vous vous rendez compte, la bénédiction du pardon, son amour, est-ce que vu le nombre de conflits qu'on a, est-ce que ce n'est pas important de retrouver l'amour du Seigneur? Mais c'est la parole de Dieu qui fait qu'on retrouve cet amour, qu'on retrouve de l'amour, qu'on retrouve de la compassion pour les gens. Parce que des fois, je ne sais pas vous, mais à cause des déceptions, ça nous arrive d'être vide, oui ou non? Et trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est exactement ça. J'ai besoin de pardon, de l'assurance du pardon. Pas d'un pardon religieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous parler du pardon, mais ils ne l'ont jamais vécu. Moi, je parle de l'assurance du pardon. Combien c'est important d'être pardonné. Aujourd'hui, je réfléchissais aux couples qui ont échoué. Parce qu'en pensant à cette prédication, je pensais quand même, parce qu'il y a des couples qui ont divorcé pour rien, enfin pour rien. Je crois qu'ils auraient pu recevoir de la part du Seigneur l'amour, le pardon. Vous ne croyez pas, franchement? Ils sont passés à côté. Je ne les juge pas. Là aussi, c'est généralisé. Mais je crois qu'il y a dans la parole de Dieu tout ce dont nous avons besoin. Sa grâce. Plusieurs ont parlé dans la prière. Je vous ai écouté prier pour dire amen à votre prière. Mais combien ont utilisé le mot grâce? Continuellement, la grâce de Dieu. Continuellement. Pourquoi continuellement? Eh bien, parce que nous en avons besoin continuellement de la grâce de Dieu. Le pardon, je ne vais pas citer toutes les vertus. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous n'avons pas besoin continuellement de pardon? Oui, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi, dans la loi de la parole. Mais qui médite? Qui médite? Vous avez remarqué? L'homme qui médite. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite. Le repos ne peut pas venir parce que je lis un psaume pour lire un psaume. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est de la religiosité. Mais un homme qui médite, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre en pratique quelque chose, d'apprendre quelque chose, pour que vous aussi, vous vous mettiez, peut-être que vous appreniez à méditer. Parce que je crois que la méditation, ça s'apprend également. Pourquoi méditer? Eh bien parce qu'il y a toutes les réponses dans la parole de Dieu. En tous les cas, les réponses dont nous avons besoin. Quand on médite la parole, je pense que c'est beaucoup plus facile de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas. On leur dit, mais il faut mettre votre vie entre les mains de Dieu. Mais je ne sais pas, je prie, j'y arrive pas. C'est quand même un des secrets du bonheur. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Donc, quand on médite la parole de Dieu, il se passe certaines choses dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut croire, par exemple, quand on médite la parole de Dieu, c'est un exemple. Mais est-ce que Dieu peut changer une situation? Est-ce que Dieu, s'il ne change pas la situation, à la place, peut nous donner de supporter la situation? On le voit souvent, ce que la foi a accompli, ce que la foi a supporté. Des gens qui ont échappé à l'épée, et des gens qui sont morts par la foi, au tranchant de l'épée. Des gens qui sont sortis de prison par la foi, et des gens qui ont été emprisonnés par la même foi. Donc, le fait de méditer procure du bonheur parce que vous avez cette profonde conviction que Dieu peut changer une situation, car Dieu a le pouvoir de changer les temps et les circonstances, mais d'un autre côté, que Dieu peut nous donner d'accepter une situation et de supporter une situation. Voulons-nous vraiment ce repos? Parce que c'est un sujet, un grand sujet, le repos. Le Seigneur le propose à tous. Vous avez vu l'introduction, venez à moi, vous tous, et je vous donnerai du repos. Eh bien, voyez, il faut savoir fuir certaines choses et méditer sa parole. Donc, il ne faut pas lire pour lire. Certains le font. Moi, ça m'est arrivé. Même moi, de me faire piéger, de lire tous les jours mes trois chapitres, pour lire mes trois chapitres. Mais que c'est bête. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même mieux que de rien faire du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense quand même que c'est bien, parce que même si on le fait routinièrement, il y a quand même un verset qui peut nous interpeller. Vous êtes d'accord? Mais ce n'est pas quand même la solution. La solution pour le bonheur, c'est de méditer. Pour la méditer, vous l'avez certainement entendu, les Juifs lisaient la parole de Dieu à haute voix. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible à haute voix? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous savez qu'on retient beaucoup mieux quand on lit à haute voix? Il paraît que ça se grave davantage dans notre esprit et dans nos pensées. Et peut-être que c'est la meilleure façon d'amener nos pensées captives à l'obéissance. Parce que vous l'avez vérifié, enfin j'espère que vous l'avez vérifié, c'est qu'il vient un moment donné où la parole de Dieu devient comme une seconde nature. Moi je l'ai vu quand j'ai fait mon AVC, que j'étais pas trop bien, mais j'étais comme envahi de ces promesses de la parole de Dieu. Continuellement, j'avais une promesse qui me revenait à l'esprit. Mais vous savez, comme un écran télé où vous êtes obligé de voir une promesse de Dieu. Ça a été une expérience extraordinaire. Vous savez, quand vous êtes fatigué, je ne pouvais plus lire, je n'y voyais pas. Mais j'avais toujours une promesse de Dieu dans mon cœur. Et j'ai compris ce que ça voulait dire méditer. Parce que je crois que si Dieu nous demande de méditer, c'est parce que la parole de Dieu devient une seconde nature. Quelle bénédiction! Si que vous vous réveillez, des fois, ça vous arrive pas des fois de vous réveiller, mais vous vous réveillez avec un verset, vous vous réveillez avec un cantique, est-ce que c'est pas bien? Et c'est ça que je parle de seconde nature. Pourquoi tant de chrétiens n'arrivent pas à ce niveau? Eh bien parce qu'ils se sont fait piéger par les moqueurs, ils se sont fait piéger par les pécheurs, ils se sont fait piéger par les méchants. Et nous devons faire très attention, parce que c'est un piège ça. Et croyez-moi, c'est un piège. Quand vous méditez, vous apprenez la voix du Seigneur. C'est comme ça. Quand vous méditez, vous recevez ses instructions. Quand vous méditez, vous apprenez de lui. Vous prenez ce fameux joug dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 11. Quand vous priez, vous réclamez les promesses. J'ai écouté les prières. Les prières par rapport au fardeau étaient toutes plus ou moins liées à des promesses. Seigneur, tu as promis. Alors, je te fais confiance. Pourquoi? Parce que vous avez médité la parole de Dieu. Vous pouvez prier, non seulement demander, mais juxtaposer chacune de vos prières à une promesse qui correspond. Est-ce que vous rendez compte l'assurance que vous pouvez avoir? Quand vous méditez, c'est clair, vous mémorisez les Écritures. Le psaume 91 qu'on a partagé dimanche matin, je me suis posé la question ce matin, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de l'apprendre par cœur? Sérieusement, un psaume comme le psaume 91. Pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse? Est-ce que ça veut dire 24 heures sur 24, je te veux à genoux, les mains croisées en train de prier? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Bien sûr que non, c'est impossible d'ailleurs. Mais ça veut dire que nous devons développer un état d'esprit où sans cesse nous sommes en communion avec Dieu, parce que quand nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes fortifiés. Fortifiés face à tous ces méchants, à tous ces pécheurs, à tous ces moqueurs. Parce qu'il y en a des méchants et des moqueurs. Enfin, je ne pense pas vous apprendre grand-chose ce soir. Nous sommes tous pareils. Nous sommes parfois face au découragement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être découragé? Il y a des gens, mais il y a des gens, c'est des spécialistes, même des chrétiens. Et il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'art de décourager. Dès qu'ils parlent, à qui que ce soit qu'ils parlent, ils découragent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui fuient. Vous n'avez jamais arrivé ? Ça vous est jamais arrivé ? Soyons honnêtes. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de cette catégorie de gens. Les gens peuvent nous décevoir. Est-ce que vous avez déjà été déçu par quelqu'un ? Bon, on va faire plus simple. Qui n'a jamais été déçu ? Hein ? Voilà. On peut être déçu. Et vous comprenez bien que ce psaume premier nous donne les réponses à chacun de ces problèmes. C'est quoi être heureux selon Dieu ? Mais c'est quoi ? Eh bien, c'est le verset 3 qui nous l'enseigne. Est-ce que vous vous rendez compte ? Voilà, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre. On l'a lu dans Jérémie. Vous vous rendez compte comment Dieu parle ? Il dit qu'un homme heureux, c'est quelqu'un qui est comme un arbre, planté près des eaux. Quelqu'un qui médite. Vous avez vu des arbres ? Vous avez vu au bord du canal ? Les platanes, c'est impressionnant, certains. Ils ne sont pas certains si vieux que ça. On pourrait croire qu'ils ont 400, 500 ans. Ils ne sont pas si vieux que ça. Et le fleuve de vie, nous le savons, c'est Jésus-Christ. J'ai Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible parle souvent d'un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Tout notre être immergé. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous êtes comme un arbre qui est planté près des eaux. Et c'est là qu'on peut porter du fruit. On ne porte pas du fruit par nos efforts personnels. Je vais essayer d'être sympa, je vais essayer d'être gentil, je vais essayer d'aimer les gens, je vais me faire violence. Parce que, alors en plus, on fait n'importe quoi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Mais il ne faut pas se faire violent avec la chair. Violence avec la chair. Il faut se faire violence pour chercher Dieu, pour que Dieu nous donne ce dont on a besoin. C'est de cette façon qu'on développera les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En tous les cas, quand on lit le verset 2 et 3... Et quand on lit le verset 4, Dieu veut volontairement qu'il y ait un contraste entre les méchants et les justes. Ce psaume est un psaume qui nous enseigne vraiment, tous les psaumes, on va les faire, vous voulez qu'on les fasse tous les 150 hein? On pourrait le faire, mais on peut le faire. Dieu permet un choc, le contraste qu'il y a entre le juste, qui est comme un arbre qui porte du fruit, enraciné, inébranlable, et vous rendez compte au verset 5, verset 4, les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Mais vous vous rendez compte la différence entre un arbre enraciné dans l'eau et de la paille dispersée par le vent. Voilà ce que Dieu veut que nous comprenions. Un homme qui médite ressemblera à un arbre ancré près de l'eau. Un homme méchant est comme de la paille que le vent dissipe. Voilà ce qui se passe lorsqu'on ne veut pas de la grâce de Dieu. Quelle différence ? Que voulez-vous être ? De la paille que le vent dissipe ou un arbre enraciné dans la grâce de Dieu ? Ils sont séparés des autres, voyez ? C'est ce qui est écrit. Et ça va loin cette affaire, parce que Dieu va loin dans ce psaume. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et là, il parle du jugement dernier. C'est clair. Si nous vivons loin du Seigneur, il ne faut pas s'étonner à ce que nous connaissions le châtiment de Dieu. Nous récolterons ce que nous avons semé, c'est ce que la Bible dit. Et le psaume conclut avec une comparaison. C'est important de comprendre les comparaisons dans la Bible. Ce n'est pas écrit pour rien. Voyez, d'un côté, voyez, les justes, Dieu les connaît. Et Dieu connaît la voie des justes et on sait comment ça va se terminer. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Les justes, peut-être que vous découvrez l'évangile, c'est qui les justes dans la Bible ? Les justes, ce sont ceux qui ont accepté que Jésus-Christ, par son sang précieux, les justifie. Les justes, ce sont ceux qui ont dit « Oui Seigneur Jésus, tu es mort sur le bois de la croix pour moi et je me repens, je me convertis, je te donne mon cœur, je veux être justifié. » Les justes sont ceux qui ont été justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. La loi a été donnée pour que nous recevions justement cette justice. Le juste, il vivra par la foi. Alors, que faut-il penser de ces pécheurs ? Je me suis dit quand même, il faut conclure avec quand même une pensée pour les pécheurs. Parce que la Bible dit que la fin sera la ruine. Et vous le savez, combien de gens sont morts aujourd'hui ? Combien de gens sont partis dans l'éternité sans Dieu ? Et ces pécheurs, d'un côté, il faut s'en éloigner. Mais de l'autre, mes frères et sœurs, est-ce qu'il ne faut pas avoir de la compassion pour les pécheurs ? Eh oui, voyez, il faut que Dieu se révèle à leur cœur. Comment Dieu se révélera au cœur des pécheurs ? Eh bien, avec des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que d'un côté, il faut... Ben, il est dit de Jésus que c'était l'ami des pécheurs. et qui se tenait éloigné du péché. Ce n'est pas écrit au même endroit, mais c'est exactement ça. Dieu les aime, et je crois qu'il faut leur proposer de vouloir changer. Car il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont devenus méchants à cause du découragement, à cause du cynisme, à cause de ce qu'ils ont vu. Mais je crois qu'on peut proposer aux gens, est-ce que tu ne veux pas changer? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut décider de dire, non, je prends la décision de faire le bien. Je prends la décision de pardonner. Je prends la décision d'être en bénédiction. Je crois que ce que les méchants ont besoin de voir, c'est des chrétiens joyeux, remplis du Saint-Esprit. Oui, Dieu veut les délivrer. N'oublions pas que ce n'est pas catégorique. Oui, d'un côté, il y a les justes, d'un côté, il y a les méchants, mais nous devons être une bénédiction. Qui a confié sa vie au Seigneur ici? Qui c'est qui a confié sa vie à Dieu? Mais si vous n'avez pas confié votre vie au Seigneur, faites-le ce soir. Vous éviterez le malheur. Parce que quand même, ces psaumes nous enseignent beaucoup. Quelle grâce d'avoir confié sa vie au Seigneur. Vous savez, oui, je le crois, qu'il est un fleuve, comme on le chante. On n'a pas le temps de le chanter ce soir, mais il est un fleuve, qui, je l'ai marqué sur mes notes, qui coule du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me conduit et sa victoire m'anime de l'esprit. Oui, la présence de Dieu, c'est exactement comme un fleuve. Et je voudrais qu'on termine en priant, parce que Dieu peut-être mettra sur notre chemin des méchants, des moqueurs. Dieu mettra sur notre chemin des personnes qui sont loin de Dieu, des pécheurs, mais ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils peuvent changer. Et ce soir, s'il y avait quelqu'un parmi nous qui soit dans cet état de fête, dans la moquerie, dans le péché, qui soit méchant, vous pouvez dire, oui, je prends la décision, je ne veux plus être quelqu'un de cynique, de faire du mal, d'amener la tristesse autour de moi. Je veux amener la bénédiction. Oui, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. On va prier pour les gens que l'on va côtoyer ces jours-ci. Parce que, restons recueillis, est-ce que vous croyez que Dieu peut mettre sur votre chemin des gens cyniques? Oui, des pécheurs, des méchants. Des gens qui ont connu Dieu toujours en train de décourager les autres. Il y en a. Non, mes frères et sœurs, un homme heureux qui médite la loi, il fait du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier pour les gens que l'on va côtoyer dans les jours à venir. On va prier pour la réunion de dimanche. J'aimerais tellement que dimanche, certains sortent de leur religiosité et découvrent la vie de l'Esprit. Seigneur, nous terminons ces moments en comprenant ce que tu as voulu dire lorsque tu as invité tous les hommes à recevoir ton repos. Merci, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu donnes le repos à ceux qui apprennent de toi, à ceux qui reçoivent tes instructions. Le peu que nous avons compris ce soir nous permet de réaliser combien tu as tant de choses à nous enseigner. Oui, merci pour les psaumes qui nous permettent d'exprimer toute notre souffrance et notre chagrin. Mais merci pour les psaumes qui nous révèlent ton caractère et qui nous montrent combien ta grandeur est au-dessus. Oui, Seigneur, tu béniras les justes. Oui, tu jugeras les pécheurs. Seigneur, nous te prions pour tous les gens que nous allons côtoyer, afin que si d'un côté nous devons nous savoir nous éloigner du péché, d'un autre tu nous demandes d'aimer ces gens. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner de la compassion. Vraiment, Seigneur Jésus, donne-nous de la compassion. Donne-nous de rendre ce témoignage qu'amène la vie. Te prions pour tous les chrétiens qui sont enfermés dans la tristesse, dans le cynisme, qui ont détruit leur foyer, qui ont détruit leur famille, qui ont détruit leur maison. Tu vois tous ces chrétiens qui ont détruit autour d'eux. Nous te prions de nous donner de l'affection, afin qu'au travers de notre vie, nous puissions vraiment, oui, porter du fruit. Seigneur, aide-nous. Sans ta grâce, nous n'y arriverons pas. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Et pourtant, avec ta grâce, tout peut être accompli. Alors, Seigneur, tu vois cette ville. Tu sais qui mieux que toi, c'est le jour où tu vas revenir chercher ton peuple. Alors Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce. Par la puissance du Saint-Esprit, fais-nous grâce Seigneur, afin que ce bonheur, cette vie de l'Esprit, cette joie d'être comme ces arbres plantés près des eaux, puisse être en bénédiction aux autres. Oui Jésus, nous te le demandons tous ensemble de même cœur, fais-nous grâce pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.